Vous le savez, il y a beaucoup de miracles dans l'Évangile, beaucoup de guérisons, mais ce récit de l'aveugle de Bethsaïda m'intéresse particulièrement parce qu'il est bizarre. Bizarre pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on voit que Jésus doit s'y reprendre à deux fois pour guérir l'aveugle. Ça, c'est assez étrange. Si vraiment Jésus était une sorte de puissance de Dieu et d'habitude est guéri d'un coup, c'est le seul endroit où on a l'impression qu'il rate. Enfin, il essaye une fois, ça ne marche pas bien, alors il recommence. Et donc pourquoi d'abord cela? Et puis d'autres bizarreries, pourquoi cette histoire de salive? Les gens lui amènent et ils disent bah, « tu lui imposes les mains, il sera guéri », c'est ce que Jésus fait d'habitude. Mais là, alors il fait tout un procédé compliqué, il lui met de la salive sur les yeux. Et puis autre complication plus savante, c'est pourquoi ce récit est-il seulement dans l'évangile de Marc? Et ça intrigue beaucoup les spécialistes de la Bible parce qu'ils nous disent tous que Marc est le plus court des évangiles. Matthieu et Luc l'avaient sous les yeux pour écrire les leurs. Donc tout ce qui est dans Marc, en gros, c'est pompé dans Matthieu et dans Luc. Pourquoi ce récit est-il dans Marc et les autres évangélistes ne l'ont-ils pas gardé? Et là, je vais vous dire, j'ai lu des choses effroyables. Les commentateurs les plus savants aujourd'hui disent que ce récit est tellement foireux qu'il ressemble tellement à une sorte de guérison populaire d'un guérisseur local que les autres évangiles n'en ont pas voulu en disant que c'était trop mauvais et que ça n'avait aucun sens. Et beaucoup de commentateurs, même dans les best-sellers de théologie aujourd'hui, en restent là en disant « circuler, il n'y a rien à voir ». Ça, là, vraiment, il n'en fallait pas plus pour stimuler ma réflexion. Je dirais, je suis toujours impressionné quand les commentateurs du 21e siècle se considèrent plus intelligents que l'évangile de Marc. Mais bon, l'orgueil peut être n'importe où, en tout cas là au mauvais endroit. Et puis, je vais vous dire autre chose, c'est un souvenir, pas d'enfance, mais quand j'étais jeune pasteur, moi j'étais bien formé, j'ai bien écouté le catéchisme, donc je croyais bien tout aux miracles et tout ça. Et je faisais une étude biblique, et je leur dis, vous voyez, Jésus quand même, c'est une vraie puissance divine, il arrive à guérir un aveugle, c'est extraordinaire. Et il y avait là dans l'assistance un vieux médecin colonial qui bougonnait dans son coin, qui me dit, écoutez, alors là, monsieur le pasteur, laissez-moi vous dire que votre miracle, si c'est ça le miracle, alors moi je suis fils de Dieu aussi. Alors je lui dis, pourquoi? Il dit, mais parce que c'est un vieux truc connu de médecine coloniale. On sait que dans certains pays, quand les gens souffrent de déshydratation dans le désert ou autre, eh bien, tellement desséché que l'humeur qui est sur les yeux forme une sorte de croûte salée et que la personne n'y voit plus rien. Donc on nous a appris, en faculté de médecine, qu'il suffisait de dissoudre la croûte salée avec de la salive et les gens, immédiatement, revoient tout à fait ordinairement. Bon, alors, j'étais bien embêté parce que voilà que mon miracle tombait à l'eau. Et puis du coup, qu'est-ce que j'allais en faire? Eh bien, ce que j'allais en faire, je l'ai découvert évidemment assez rapidement, c'est que ces miracles n'ont pas d'intérêt du point de vue médical. Parce que vous, frères et sœurs, ni moi, si un jour vous avez des problèmes de vue, surtout n'allez pas voir un pasteur, ni un curé, ni un pope, ni un imam. Allez voir un médecin. Voilà. C'est-à-dire que la bonne nouvelle de l'Évangile, ça n'est pas de dire aujourd'hui que Jésus-Christ est tellement puissant qu'il pourrait vous guérir de vos problèmes médicaux. Donc pour la médecine, vous allez voir les médecins et vous allez voir Jésus-Christ pour les problèmes de l'âme. Voilà, il faut mettre chaque chose à sa place et les choses sont claires. Et donc, évidemment, on s'en fiche un peu de ces récits de guérison, sauf si on comprend qu'ils ont évidemment un sens symbolique, si je puis dire. Parce que le regard, ou d'être aveugle, l'important, c'est pas de voir, d'avoir 10/10 à chaque œil. L'important, c'est de voir qui l'on est, de voir où l'on va, de voir qui est l'autre, de voir où on se situe, de voir qui est Dieu. Et souvent, nous sommes, nous aussi, comme ces aveugles, incapables de voir clairement ce qu'il faudrait voir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, vous comprenez, et donc souvent nous ne voyons pas. Je ne vois pas où j'en suis, je ne vois pas qui est Dieu, je ne vois pas où je vais. Et c'est cela que Jésus peut nous aider à guérir. C'est d'ailleurs à peu près une évidence, je suis étonné que les gens prennent ces récits des évangiles au pied de la lettre, alors que quand dans l'évangile de Jean, Jésus dit la même chose, mais autrement. Dans Jean, Jésus dit en Jean 8, « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Tout le monde comprend qu'il ne s'agit pas d'une lumière qui se mesure en kilowatts. C'est donc qu'il est une lumière intérieure. Eh bien, les évangiles Matthieu, Marc et Luc disent la même chose, mais d'une manière imagée. Ils disent « Voilà, un pauvre type, il était dans le noir, il était aveugle, et Jésus lui donne la lumière », c'est-à-dire qu'il lui permet de voir et de comprendre. J'ai même une preuve de cela, d'ailleurs, c'est justement dans Jean, où il y a aussi une guérison d'un aveugle. Et bon, très bien, il guérit un aveugle-né même, en Jean 9. Et à la fin, les pharisiens eux-mêmes comprennent qu'il s'agit d'autre chose que d'une guérison physique. Je vous lis le passage, Jean 9, 40. Quelques pharisiens qui étaient là, après avoir entendu les paroles, dirent à Jésus, « Mais alors, nous aussi, nous serions aveugles ?» Et Jésus leur dit, « Si vous étiez vraiment aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais parce que vous prétendez voir, votre péché demeure. » Et donc vous voyez que là, clairement, il s'agit de prétendre voir, de comprendre ou de ne pas comprendre. Donc voilà une piste. Autrement dit, je pars sur cette idée qu'il ne s'agit pas d'un acte de guérison populaire, mais il s'agit d'autre chose. Un homme qui était dans le noir, qui n'y voyait plus rien, et Jésus lui permet de retrouver dans sa vie une certaine autonomie et une certaine clairvoyance. Donc après, il faut regarder dans les détails comment ça se passe. C'est là où ça devient plus intéressant. Parce que d'abord, de quoi souffrait-il? Eh bien, pour ça, on a des indices. C'est que la première chose que fait Jésus pour le guérir, c'est de le sortir de la ville. Il était dans une ville et Jésus lui dit, d'abord, tu sors de là et tu viens tout seul là, à l'extérieur. Et je me dis peut-être que, effectivement, ce qui l'empêchait de voir, c'était les autres. C'est-à-dire peut-être que son problème, c'est qu'au lieu de voir par lui-même, il voyait tout par les autres et à travers les autres, en fonction des autres. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est qu'on a du mal à avoir sa propre opinion et finalement, on est tellement dépendant de ce que pensent les autres qu'on finit par penser comme les autres voudraient qu'on pense. Et ça, c'est une façon d'être aveugle, lorsque les autres pensent pour vous. C'est d'ailleurs ce qui se passe, puisque ce n'est même pas lui qui va voir Jésus, c'est d'autres qui l'amènent. Donc il est à la remorque des autres, il n'a aucune autonomie. Et d'ailleurs, c'est encore plus vrai que vous le pensez, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure lors de la lecture, il faut faire attention à chaque détail. Et ça m'a demandé pas mal de travail, je vais vous le résumer, ça vous évitera du travail. On nous dit que ça se passe dans une ville qui s'appelle Bethsaïda. Alors pourquoi Bethsaïda? J'ai trouvé assez vite, c'est que Bethsaïda, eh bien écoutez, c'est une ville tout à fait antipathique. L'évangile nous dit que Jésus y a fait des miracles, mais que les gens n'ont rien voulu comprendre. Et ensuite, Jésus a fait une sorte d'imprécation contre Bethsaïda, je vous la lis, Matthieu 11, 21. « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » Donc Bethsaïda, apparemment, dans l'évangile, c'est l'essence même des incrédules, des persifleurs, de ceux qui doutent de tout, de ceux qui refusent de voir ce qui est beau, ce qui est grand, de refusent de voir même la grandeur de Dieu et même, la beauté du monde. Et puis Bethsaïda, ça veut dire, en hébreu, la maison du chasseur. Alors, on peut aimer la chasse, j'aime plutôt, mais cela dit, dans la Bible, c'est pas très bien vu. Le premier chasseur, c'était Nemrod, dont le nom veut dire « rebelle contre Dieu », et donc, là aussi, c'est pas extrêmement positif. Saint Jérôme, le célèbre théologien, dit, j'ai pas réussi à le vérifier, que Bethsaïda, ça voulait dire la maison de la vallée. Ça, c'est pas très bon non plus. Une vallée dans la Bible, c'est sombre, c'est obscur, c'est... Enfin bref, et donc cette ville de Bethsaïda, c'était une mauvaise influence pour ce brave homme. Et il est vrai que c'est dommage d'être avec des gens qui vous privent de voir les merveilles. Et ce qui rend aveugle, c'est peut-être justement de refuser de voir et de ne pas être capable de reconnaître ce qui est beau et ce qui est grand dans sa vie. Et pour ça, eh bien, Jésus a raison, il faut sortir de l'influence des autres, première chose. Et donc de dire, écoutez, vous voulez voir par vous-même, arrêtez de vous demander ce que voient les autres, mais voyez par vos propres yeux. Arrêtez de regarder par le regard des autres. Et l'aveugle, en ce sens, c'est celui qui ne se fait pas sa propre opinion, celui qui est à la remorque, toujours influençable. Jésus va en faire un homme autonome, libéré, clairvoyant, au-delà et libre, indépendant de tous ses propos négatifs et dépressifs. Et d'ailleurs, Jésus va lui dire, effectivement, au début, il va le prendre par la main. Donc certes, il le coupe des autres, il le prend par la main et l'accompagne, et puis à la fin, il lui dit « ne rentre pas dans la ville ». Il lui dit simplement « rentre dans ta maison ». C'est-à-dire qu'il lui demande juste d'éviter la société des méchants, mais il le renvoie chez lui. Donc Jésus, vous voyez, n'est pas un chef de secte, il ne le prend pas d'une dépendance à une autre dépendance. Jésus le guérit, lui donne l'autonomie et lui dit « rentre chez toi ». C'est-à-dire qu'il lui redonne une vraie liberté. Bon, cela étant dit, voyons comment Jésus s'y prend pour redonner, je dirais, l'autonomie, l'indépendance et la clairvoyance à cet homme. Je vous l'ai dit, chose curieuse, il s'y prend à deux fois. Pourquoi donc ? Alors, la plupart des commentaires disent que, en fait, c'est pour montrer que toute guérison, pour nous, humains, est quelque chose de compliqué. Et qu'en fait, il y a toujours des rechutes. Parfois, on essaye de progresser, on croit qu'on va y arriver, et puis on n'y arrive pas. Et donc, ce n'est pas que Jésus manque de puissance, c'est un fait que, de toute façon, il est rare qu'on arrive du premier coup à faire quoi que ce soit. Tout nous demande des essais, des tentatives, des re-essais, des re-tentatives. Et donc, il faut une certaine constance dans ce que l'on veut et dans ce que l'on veut faire. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, il doit s'y prendre à deux fois. Et donc, pour nous, c'est évident. J'avais lu quelque part que pour qu'un petit enfant, un bébé, apprenne à marcher, il faut qu'il ait fait entre 2 et 3 000 tentatives, ou je crois même plus, c'est effrayant. Enfin. Et donc, le bébé, il essaye de marcher, il tombe, il réessaye, il retombe, il réessaye, il retombe, il réessaye, il retombe, il réessaye, il retombe, il réessaye, il y arrive. Et donc voilà, ça c'est la vérité. On ne peut pas se guérir d'un coup. Ceux qui ont essayé de fumer le savent, on essaye, ils rechutent, ils réessayent, ils rechutent et ils y arrivent. Et donc oui, la rechute, je dirais, est, comme disent les bons thérapeutes, n'est pas un échec, c'est simplement un pas de plus que l'on fait vers la guérison. Bon, ça c'est sûrement pas faux, mais en fait j'ai une meilleure idée. Parce que je pense que cette guérison en 2 étapes, est beaucoup plus intéressante que simplement ce que je viens de vous dire. Mais pour vous expliquer ça, il faut que je fasse un petit détour par la salive. Jésus, je vous l'ai dit, met de la salive sur les yeux de l'aveugle pour le guérir. Bon, par-delà le remède de médecine coloniale que je vous ai expliqué, depuis 2000 ans, les théologiens et les pères de l'Église savent pourquoi, symboliquement. Le premier que j'ai trouvé qui l'ait dit, c'est Jean Chrysostome dans un magnifique commentaire qui dit, et il a raison, la salive, ça représente la parole, parce que la salive, c'est ce que l'on use à parler. D'ailleurs, j'use ma salive à vous le dire. Et donc, la salive représente la parole. Et quand Jésus met la salive sur les yeux de l'aveugle, ça veut dire qu'il l'invite à regarder à travers la parole du Christ. Et ça, c'est merveilleux. Apprendre à voir le monde à travers le filtre de l'Évangile. Et ça fait voir les choses autrement, parce que on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas changer les événements, on ne peut pas changer les situations dans lesquelles on est. Souvent, elles sont comme elles sont. Mais ce que l'on peut changer, c'est le regard que l'on a sur les événements, sur les choses, sur sa vie. On ne peut pas non plus changer, j'allais dire, son conjoint ou ses enfants, très peu, mais on peut changer le regard que l'on a sur l'autre, et sur les autres. Et ça, ça change tout. Parce que, effectivement, voir à travers la parole du Christ, c'est essayer de voir les autres en particulier et les événements avec un regard de bienveillance. Et quand je parle d'amour, c'est certes par rapport aux gens, et je ne vois vraiment mon prochain que si je l'accueille. Tant que je le regarde à travers les lunettes de mes présupposés, de mes préjugés, de ma jalousie, de mon désir de pouvoir ou de ma haine, je suis aveugle, je ne vois pas qui est l'autre. Voir l'autre, c'est être capable de le comprendre, de l'accueillir et de le voir avec accueil et bienveillance. Et l'amour, c'est cela. Et ça va aussi sur les événements. Les événements qui nous blessent sont les événements que nous refusons. Et Jésus a toujours montré une capacité extraordinaire à accueillir. Accueillir les autres, même quand ils étaient pleins de péchés, même quand c'était des horreurs, il les accueille, il les reçoit. Il les regarde avec tendresse. Et même les événements, même sa propre mort, Jésus l'accueille et la reçoit avec tendresse et avec bienveillance. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on est capable de changer son regard, justement, et de ne pas être aveuglé par ses présupposés et par son propre égoïsme, mais de véritablement voir l'autre avec un regard d'accueil, de pardon, de grâce et d'amour. Et ça, ça change tout. Et c'est là où j'ai la preuve, c'est que, justement, il doit s'y prendre à deux fois. Or, deux, c'est toujours dans la Bible le nombre de la parole de Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Pour les Juifs, il n'y a que l'Ancien, mais il y a la parole écrite, la loi écrite et la loi orale. Ensuite, il y a Dieu a parlé sur le mont Sinaï à Moïse et lui donne deux tables de la loi. Et même Moïse, c'est la leçon que vont faire les enfants de l'école biblique tout à l'heure. Moïse, vous savez, il reçoit la loi de la part de Dieu une fois. Il descend et voit le veau d'or, il dit « mais c'est pas possible, quelle bande d'imbéciles, il casse les tables de la loi ». Du coup, Dieu dit « écoute, c'est sympathique ton truc, mais il n'y a plus qu'à recommencer ». Alors Moïse remonte, ils font une deuxième série de tables, il redescend, et donc les tables de la loi sont deux et ont été données deux fois. Deux fois la loi a été donnée à Moïse, comme deux fois l'évangile est dit à cet homme. C'est-à-dire que nous avons là, Jésus est le nouveau Moïse. Et cette parole qu'il lui dit, cette parole de grâce et d'amour qu'il lit dans l'Évangile, c'est la nouvelle loi. Et donc nous ne sommes plus invités à lire le monde à travers la loi du Lévitique, qui fait une séparation entre les bons croyants et les mauvais croyants, entre ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas, mais nous sommes invités à lire le monde à travers une nouvelle loi qui est celle de la parole du Christ. Et cette parole, eh bien, on ne sait pas exactement précisément quelle elle est là, parce que chacun lit l'Évangile et dans sa lecture de l'Évangile, Dieu parle dans le cœur de chacun et c'est donc une parole intime et personnelle. Et donc c'est bien cette salive, cette parole, c'est bien le passage par cette parole du Christ et de l'Évangile qui va ouvrir les yeux de cet homme-là. Et puis on peut continuer plus loin en disant, je vous ai dit, faire attention à la lecture, hein. Il me semble que la deuxième fois, il ne met pas de salive. Il en met la première fois, et la deuxième fois, il se contente de poser la main sur les yeux. Et je me dis, tiens, il y a la parole, la salive, et le geste, la main. Et en effet, Jésus est parole, et ses gestes sont aussi une parole. Du coup, cette guérison, elle est une parole. Vous voyez, ce n'est pas juste un acte en disant, ah ben il est formidable, Jésus, c'était un bon docteur. C'est une parole en soi. Et donc, l'Évangile, c'est parole et acte. De même que dans nos cultes, il y a la parole, qui est la prédication, et il y a les actes, qui sont les sacrements, la communion, quand nous le faisons. Et donc, finalement, voilà une chose essentielle, mais je crois que ça ne dit non plus pas tout. Le plus intéressant, c'est quand même bien que Jésus s'y prenne à deux fois. Parce que finalement, je vous ai dit que les commentateurs étaient un peu simplistes, en disant qu'il fallait que Jésus s'y prenne à deux fois pour respecter la nature humaine. Peut-être que l'idée quand même, et c'est plus que de dire que c'est la parole comme Moïse, c'est non pas que Jésus s'y prenne à deux fois, mais peut-être que cette guérison doit se faire avec une étape intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes dans la guérison, et pour arriver à la guérison complète, il passe par une étape intermédiaire qui est importante. Ça, c'est ce qui m'a demandé le plus de mal. Quand l'homme est à moitié guéri, Jésus lui dit « Que vois-tu ?» Et il dit « Je vois des hommes comme des arbres et ils marchent. Alors là, vraiment, ça m'a demandé des heures et des heures de recherche et je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la solution de cette énigme. Pourquoi dit-il qu'il voit les hommes comme des arbres et qu'ils marchent? Et j'ai un soupçon d'idée que je vous livre. Je reprends mon idée de départ. Je vous ai dit, je pense qu'il était aveuglé par les autres. Et Jésus l'isole de cette communauté morbide que représente Bethsaïda. Il le fait sortir de là, il le sort de ce groupe d'amis, de ce groupe de pensées, de ce groupe de pression intellectuelle et spirituelle qui était négatif, destructeur et néfaste. Et donc, je vous l'ai dit, au départ, je pense qu'il était étouffé par les autres et il voyait tout à travers les autres. Il ne voyait que par le regard des autres et il était entièrement dépendant des autres. Jésus le guérit dans une première étape et je dirais, enfin, il devient indépendant. Il devient lui-même. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus, la première chose qu'il lui demande, il lui dit « Vois-tu quelque chose ?» Alors là aussi c'est bizarre, Jésus il sait tout, pourquoi il doit demander au bonhomme s'il voit un truc? Jésus le savait j'imagine, donc c'est pas ça l'idée. L'idée c'est qu'il dit au garçon « Que vois-tu » C'est-à-dire, je vous l'ai dit, c'est un problème de vision. Il lui dit « Toi, est-ce que vois-tu toi » C'est-à-dire, quelle est ta vision des choses? Est-ce que tu es capable là d'avoir une vision personnelle? Ce qu'il n'arrivait pas à avoir avant. Et donc c'est ça, il ne lui dit pas « vois-tu ?» mais il lui dit « que vois-tu ?» Il ne dit pas non plus « que voient les autres ?» il lui dit « que vois-tu toi ?» Il l'invite à voir par lui-même et ça n'est pas facile. Simplement, donc le garçon dit qu'il voit quelque chose, donc il est guéri en quelque sorte. Sauf que je crois que sa première guérison est allée trop loin. Certes, il est indépendant, mais les autres deviennent comme des arbres, c'est-à-dire que les autres deviennent comme des gens qui n'ont rien à dire. C'est-à-dire qu'il a son opinion à lui, mais il devient même incapable d'entendre et d'écouter l'opinion des autres. Les autres sont comme des arbres et ils marchent, et donc ils se promènent dans un monde où il n'y a que lui qui a la parole. Et ça, c'est pas trop bien. Je dirais, ça va trop loin. Il se libère des autres. Mais trop. Une sorte de crise d'adolescence, si vous voulez, exagérée. Il prétend être tout seul, d'avoir son idée, etc. Et en fait, la vie, la vraie vie équilibrée, c'est pas ça. C'est certes de ne pas être dépendant des autres, mais c'est quand même d'écouter les autres. Voilà. Et c'est quand même de comprendre ce que voient les autres. Et donc, Jésus va faire une deuxième action, je dirais, pour, en quelque sorte, non pas pour réussir, mieux la première, mais pour, à la limite, tempérer. Je dirais, la première guérison était plutôt trop complète. Et donc, pour le ramener, le réajuster un peu plus finement, avoir vraiment les autres comme des autres et pas comme des objets. Et cette fois, je vous l'ai dit, il n'y a plus de parole du Christ, mais simplement une action, un geste. Et je vous ai parlé tout à l'heure des gestes du Christ. Et du coup, je peux me dire, tiens, mais dans l'Évangile, je vois ce que Jésus dit, mais je vois aussi sa façon d'agir. Et dans sa façon d'agir, je me rends compte que Jésus, certes, il avait ses idées à lui, mais qu'il n'a jamais été méprisant vis-à-vis de personne. Et que toujours, il a accueilli même les pires, même ceux qui avaient les plus mauvaises idées, il les accueille et il les écoute. Et par conséquent, peut-être que justement c'est ça, il le met en contact de cette action du Christ qui montre que Jésus n'a jamais méprisé qui que ce soit et que même Jésus est même mort pour les pécheurs, et pour nous, et pour vous, et pour tous ceux qui ne valent pas grand-chose, comme nous tous. Et du coup, peut-être que par là, notre aveugle guéri sera capable de voir les autres, non pas comme des arbres, mais comme des alter-égaux, c'est-à-dire comme des humains qui, eux-mêmes, peuvent avoir une idée et une vision des choses. Des gens avec qui on peut parler, sans forcément être d'accord, mais avec qui on peut parler quand même, en les accueillant. Et ça expliquerait une petite variante de l'Évangile, c'est que le texte à la fin dit « il voyait tout clairement ». Et en fait, il y a une variante dans la plupart des manuscrits qui, à mon avis, est la bonne, et que les traducteurs ont dit « mais non, ça c'est sûrement une erreur, parce que les traducteurs savent toujours mieux que la Bible ce qu'il faut croire ». Et là, le texte original dit « il voyait tous », c'est-à-dire comme une personne et pas un objet, ils voyaient tous clairement. C'est-à-dire que tout à coup, l'aveugle voit clairement les gens, pas les choses, je m'en fiche que vous voyez les choses, les belvédères, les lampadaires, les bandes kilométriques, vous pouvez les voir ou ne pas voir, ça n'a aucune importance, mais l'important c'est de voir l'autre clairement et de le mettre à sa juste place. Alors finalement, vous disais-je, il lui dit de ne pas retourner dans sa ville. Ça m'a intrigué aussi, parce que je me suis dit, mais alors il le désocialise. Pourquoi il lui demande pas, il n'est pas capable de retourner dans sa ville, maintenant qu'il est capable de discerner entre... Là, peut-être que... Parce qu'il faut aussi connaître ses faiblesses. Et certes, Jésus nous aide à y voir clairement, mais on n'est jamais totalement clairvoyant. Et on n'est jamais totalement capable de tout supporter. On n'est jamais totalement capable de résister, de lutter contre ceux qui sont des puissances de mort, de destruction, de découragement et de haine. Et donc ce que dit Jésus, écoutez, les gens qui vous font du mal, ne les fréquentez pas. Voilà, c'est tout. Il faut connaître ses faiblesses. Et ça n'est pas la peine de jouer au masochiste et de se forcer à rencontrer des gens qui vous font chuter. Et donc Bethsaïda, c'est des gens pas intéressants, ils sont négatifs, destructeurs, et bien n'y retourne pas. C'est-à-dire va dans une communauté positive. C'est peut-être l'importance de l'Église aussi, où on est dans une communauté qui nous porte, qui nous soutient, qui nous aide à voir les choses positivement. Mais par contre, il ne l'enferme pas, puisqu'il lui dit de rentrer dans sa maison. Et donc il ne lui dit pas « reste dans les Alléluia, reste dans la présence de Dieu, va t'enfermer dans un monastère pour prier », mais il lui dit « va vers les tiens, c'est ceux-là auxquels vous vous devez, c'est ceux de votre maison, les vôtres, ceux qui vous sont confiés, ceux avec lesquels nous sommes invités à vivre ». Et grâce au Christ, eh bien nous pouvons apprendre, alors là c'est en deux étapes, mais pour nous il en faut 20 ou 200 ou 2000 ou 20 000, mais nous pouvons avec le Christ apprendre chaque jour à nous ouvrir un peu plus les yeux et à voir avec le regard de l'Évangile, avoir ce regard plein d'amour et de tendresse qui non seulement accueille l'autre, qui lui permet de grandir, d'avoir sa place et qui me permet à moi et à chacun de nous de grandir, d'avoir notre place, d'être autonome, d'être adulte, je dirais, dans notre foi et d'être ainsi non seulement quelqu'un qui voit, mais aussi un porteur de lumière. Amen.